journal Sébastien Legenny, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, le groupe Bolloré a-t-il spolié les terres d'une petite ethnie cambodgienne pour y fabriquer du caoutchouc? Audience judiciaire aujourd'hui à l'initiative de 80 petits paysans bounong. On vous raconte leur combat et la défense en face du groupe Bolloré. La flambée des actes antisémites en 2018, on entendra dans ce journal le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois après qu'un arbre en souvenir d'Ilan Halimi a été scié sur sa commune. Dans l'actualité également, les professionnels de santé qui s'inquiètent d'une loi trop floue. Les hommes du président, de moins en moins nombreux à l'Elysée, démission hier du très silencieux Ismaël Emelien. Le procès très attendu aujourd'hui des indépendantistes catalans en Espagne. Et on vous dit tout en fin de journal sur un appareil photo capable de traverser les murs.
Dans 20 minutes à 7h50, l'invité de Léa Salamé est, je vous le rappelle, Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat.
France Inter.
Quand de petits paysans cambodgiens, Sébastien, s'attaquent à l'Empire Bolloré.
Le groupe de Vincent Bolloré, en effet, est assigné en justice aujourd'hui devant le tribunal de Nanterre. Depuis 10 ans, une holding dont le groupe Bolloré est le principal actionnaire exploite des plantations d'EVA sur les terres ancestrales des Bounong. Les Bounong, une ethnie très fragile vivant dans les montagnes de l'est du Cambodge. Plusieurs dizaines de ces paysans accusent aujourd'hui le groupe français d'avoir une responsabilité dans l'accaparement de leurs terres, ce que Bolloré dément totalement. Les explications de Sébastien Sabiron.
Ils sont quelques milliers dépossédés de leurs terres et de leurs forêts qu'ils considèrent sacrées, faiblement indemnisés, sans jamais avoir été consultés. Aujourd'hui, 80 Bounong demandent réparation. Fyodor Rylov, leur avocat français.
Ces populations ont perdu leur logement, ont perdu leurs exploitations agricoles, l'ensemble de ce qui formait leur chez-eux a été totalement détruit.
Sur leur terre désormais, Sokfin KCD, entreprise cambodgienne, exploite des arbres à caoutchouc. La maison mère, Sokfin, est détenue en grande partie par le groupe Bolloré, à qui les Bounong demandent donc aujourd'hui directement réparation. Maître Rylov.
Ce que nous voulons démontrer, c'est que Bolloré n'est pas simplement donneur d'ordre, mais qu'il s'agit de la société qui exerce réellement le pouvoir décisionnel dans les plantations.
Un mauvais procès selon Olivier Baratelli, l'avocat du groupe Bolloré.
Le litige qui oppose au Cambodge des ressortissants cambodgiens à une société cambodgienne n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec le groupe Bolloré ou avec sa filiale, la Compagnie du Cambodge, qui a été assignée à tort. Tout le reste est absolument littérature. Le nom de Bolloré est utilisé comme une caisse de résonance médiatique. C'est parce que le nom de Bolloré est vendeur.
Une dizaine de Bounong souhaitaient assister à l'audience. Aujourd'hui, ils n'ont pas obtenu de visa. Leur avocat espère obtenir un report.
Sébastien Sabiron.
7h33, l'antisémitisme en nette progression en France, l'année dernière.
L'antisémitisme qui attaque et qui pourrit les esprits, expression de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. A donc révélé hier soir que les actes antisémites en France avaient augmenté de 74%, 541 actes en 2018 contre 311 en 2017. Le ministre qui était à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne pour constater que deux arbres plantés à la mémoire d'Ilan Halimi avaient été sciés et abattus. Ilan Halimi tué, rappelons-le, en 2006 par le gang des barbares. Le maire de la ville, Frédéric Petita, a porté plainte. Il est encore sous le choc.
Le premier arbre qui avait été planté un an après la mort d'Ilan a été totalement scié et le second a été scié aux trois quarts. Ma réaction première, du dégoût et une émotion certaine, puisque nous avions planté deux arbres à l'endroit même où le corps d'Ilan avait été retrouvé le 13 février 2006. Tous les ans, nous nous rassemblons le 13 février voilà, pour rendre hommage à Ilan. Et bien évidemment, au regard de la recrudescence des actes antisémites et des derniers mois, des derniers jours, nous appelons à l'ensemble de la communauté nationale. C'est la République qui est attaquée, donc nous avons une commémoration qui se tiendra mercredi matin à 10h, voilà, à l'endroit même où le corps d'Ilan a été retrouvé il y a 13 ans.
Frédéric Petita, le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, la flambée des actes antisémites, avec notamment ce visage, on en parlait, de Simone Veil Barret, d'une croix gammée. C'est à voir et à lire sur franceinter.fr. À noter que les fils de Simone Veil, justement, ne devraient pas porter plainte. L'homme interpellé samedi après l'incendie d'un véhicule de la mission Sentinelle, en marge de la manifestation des Gilets jaunes à Paris. Cet homme connu pour son activisme au sein de la mouvance anarchiste sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Les membres de la Ligue du LOL vont-ils devoir répondre de leurs actes devant la justice? SOS Racisme a demandé hier au parquet de Paris d'ouvrir une enquête préliminaire. Plusieurs membres de ce groupe Facebook accusés de cyberharcèlement il y a 10 ans ont été mis à pied hier dans différentes rédactions à Libération ou aux Inroc, par exemple. On en vient au plan santé 2022. La ministre de la Santé sera l'invité du grand entretien tout à l'heure à 8h20. Son projet de loi, Agnès Buzyn, sera présenté demain en Conseil des ministres. Un plan qui, sur le papier, doit notamment favoriser l'accès aux soins, en finir avec les déserts médicaux. Le gouvernement veut aller vite, trop vite, estiment même certains élus et professionnels de santé qui estiment que ce texte manque de précision. Véronique Julia.
Un exemple parmi d'autres, le plan santé projette la création de 5 à 600 hôpitaux de proximité. L'objectif, c'est de réduire les inégalités d'accès aux soins sur le territoire et d'offrir à tous, sur un périmètre donné, une sorte de service minimum de santé. Sur le papier, tout le monde est pour. Mais concrètement, personne ne sait encore à quoi vont ressembler ces hôpitaux et ce qu'on y trouvera précisément. C'est bien là le problème, explique Frédéric Valtoux, élu local. Il préside également la Fédération hospitalière de France.
Est-ce qu'il y aura des centres de radiologie dans chaque établissement de proximité? Est-ce qu'il y aura des laboratoires de biologie? Est-ce qu'on va demander au privé d'exercer ses missions de service public? Je ne sais pas vous dire.
Ce texte est une coquille vide, renchérit Patrick Bouet, le président du Conseil de l'Ordre des médecins. Elle pose des principes qui font certes consensus, mais elle n'apporte aucune réponse concrète, concertée et finalisée. Il cite pour preuve la fin annoncée du numerus clausus à la fin de la première année de médecine.
La loi, elle dit on supprime le numerus clausus, mais elle ne dit pas comment tout ceci va se faire, avec quels moyens tout ceci va se faire, comment les universités vont former le nombre de médecins dont elles auront besoin. C'est une loi qui ne contient pas les réponses.
À l'arrivée, inquiétude et méfiance, car ces professionnels redoutent que beaucoup de détails soient précisés ultérieurement par ordonnance ou par décret, sans concertation et, je cite, dans l'entre-soi technocratique.
Véronique Julia, spécialiste santé à France Inter. Les salles de classe vont-elles voir fleurir des drapeaux français, européens et européens? Un amendement, en tout cas, a été adopté en ce sens la nuit dernière lors du débat sur le projet de loi sur l'école. Amendement porté par Eric Ciotti à droite et qui demande aussi à ce que l'on affiche des paroles de l'hymne national dans les classes. Mouvement de grève en perspective dans la fonction publique. 8 syndicats ont écrit une lettre au Premier ministre Édouard Philippe pour lui demander de reporter la réforme de la fonction publique, la réforme qui doit être présentée demain aux syndicats.
Inter, 7h37. Comment lutter contre le gaspillage vestimentaire?
Avec une loi anti-gaspi, car le textile est en effet une industrie ultra polluante, la deuxième juste après le pétrole. Pour l'alimentaire, ça fonctionne plutôt bien. Les denrées périssables sont redonnées aux associations depuis 3 ans. Le gouvernement entend s'appuyer sur le même principe pour les vêtements défectueux ou invendus. Une loi doit donc voir le jour cet été, mais une loi pas suffisamment contraignante selon les ONG. Les précisions d'Adrien Toffolet.
Le mois dernier, après le scandale des invendus détruits par Amazon, la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, assurait qu'une loi allait interdire ces pratiques. Or, dans l'article 5 de l'avant-projet de loi, il est écrit que les professionnels du textile sont tenus, sous réserve que ce soit techniquement possible, de réemployer, réutiliser ou recycler leurs invendus. Bref, exit la contrainte, c'est impensable, selon Valérie Fayard, déléguée générale adjointe d'Emmaüs France.
Cette petite parenthèse ouvre une porte à des échappatoires tout à fait possibles, parce que est-ce que les distributeurs vont considérer que parce qu'un produit est soi-disant abîmé, il peut pas être redonné ni recyclé et donc ils vont pouvoir le jeter. Donc il faut absolument leur interdire complètement de jeter ou de rendre impropre à la consommation.
Obliger la réutilisation, le recyclage ou le don aux associations de solidarité qu'on trouve dans la loi anti-gaspillage alimentaire.
Dans le cas de l'alimentaire, c'est obligatoire. Ils sont obligés de conclure une convention avec une association. Dans le cas du textile, on peut discuter de la notion d'obligation, mais en tous les cas, cette notion de lien avec les associations et la solidarité n'apparaît nulle part.
Du côté des professionnels du textile, on rejette toute idée d'encadrement. Les enseignes pratiquent massivement le déstockage. Les invendus jetés à la poubelle, c'est une pratique rare, affirme-t-il. Impossible de savoir s'ils disent vrai. Il n'existe ni données publiques, ni vérification.
Adrien Toffolet, ça pétille moins qu'avant en France. Les Français qui boivent de moins en moins de champagne, les ventes mondiales sont au plus bas depuis 10 ans, selon le comité champagne. Pour la première fois, on exporte plus à l'étranger qu'on ne vend de la boisson pétillante en France. En bref, à l'étranger, les parlementaires américains ont trouvé hier soir, cette nuit plutôt, un accord de principe permettant d'éviter une nouvelle paralysie partielle des administrations des États-Unis, un nouveau shutdown. à la fin de la semaine. Allez, comme promis, cette petite révolution dans la photographie. Bientôt, un appareil capable de voir ce qui se passe au détour de la rue, un peu comme le ferait un périscope. Aujourd'hui, la prise de vue à travers un obstacle existe déjà pour des besoins militaires ou de sécurité, par exemple. Mais il n'existe pas d'application simple, accessible pour se prendre pour James Bond. Avec l'invention d'une équipe de chercheurs américains, eh bien, nos appareils photo pourraient bientôt avoir la capacité de photographier ce qui est derrière un mur ou au détour d'une rue. Donc Sophie Bécherel.
En utilisant les ondes hyperfréquences capables de traverser les matériaux comme le bois, le béton, le marbre, il est déjà possible de prendre en photo un objet ou une personne qu'on ne voit pas. Le cliché à travers les murs est loin d'être parfait, mais pour certains usages, la défense, la sécurité, cela suffit. Avec son invention, Vivek Goyal, ingénieur de l'université de Boston, propose mieux et surtout sans matériel ultra sophistiqué. Dans le procédé qu'il publie dans la revue Nature, il utilise les ombres portées, les décode au moyen d'algorithmes et en déduit la forme qui les a générées. Un peu comme lorsque vous marchez sous un lampadaire et que votre silhouette fait une ombre. Le test mené avec une image simple de Mario Kart reste imparfaite mais colorisée malgré tout. Le mur joue le rôle de miroir. Le matériel utilisé pour l'expérience est sommaire, un appareil photo de 4 mégapixels, autant dire à la portée de n'importe quel smartphone, et un ordinateur moyenne gamme. Le chercheur estime qu'avant de l'utiliser pour jouer à l'agent secret, cette technique permettrait d'augmenter la sécurité en ville pour voir si un enfant est masqué par une voiture, par exemple, ou si un cycliste arrive au carrefour caché par un immeuble.
Voilà, Sophie Bécherel, spécialiste science, notre James Bond girl, la France Inter.
Merci Sébastien Legénie.